Moi, le mi-temps, j'en ai jusque là. Ça fait 40 ans que le truand me charrie. Je l'ai digéré à toutes les sauces et à toutes les modes, en costard bien taillé et en blouson noir. Ça tue, ça viole, mais ça fait rêver le bourgeois et reluire les bonnes femmes. Elles trouvent peut-être ça romantique, mais moi pas. Alors j'ai pris une décision. Moi, les peaux rouges, je vais plus les envoyer devant les jurés de la Seine. Comme ça, il n'y aura plus de non-lieu ni de remise de peine. Je vais organiser la Saint-Barthélemy du mi-temps. Tu m'as compris? Bravo.
Atmosphère! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère?
Okay.
Bonsoir Anaël.
Bonsoir Anaël, bonsoir Hugo.
Vous êtes sur ATC 107.5, www.fr et au 09531.
Voilà.
Nous
enregistrons. Il est l'heure de boire.
Nous enregistrons le vendredi 29 novembre, qui est aujourd'hui la date d'anniversaire d'Hugo. Attention, aujourd'hui c'est son anniversaire.
Happy birthday to you. Voilà. On va lui faire un petit bourre-pif après.
Ah, on va pas arrêter de toute l'émission.
Bah, oui.
C'est un coup de poing, non?
C'est ça, un bourre-pif, voilà. Ah, oui, c'est le langage de Monsieur Audiard.
Il est parti.
Ah, mais t'as déjà vu ça? En pleine paix. Il chante et puis il craque un bourre-pif. Mais il est complètement fou, ce mec.
Mais moi, les dingues, je les soigne.
On va lui faire une ordonnance.
Et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle.
Alors, justement, vu ce qu'on en est à Audiard, parce qu'aujourd'hui, nous parlerons de ce cher Georges Lautner, qui est décédé...
C'est pas Lautner, c'est Lautner.
Lautner. Yeah. George Lautner. Je ne savais pas qu'il était américain. Qui est donc décédé il y a quelques jours de cela.
Le 22 novembre 1913. Voilà.
1913,
c'est bien, non, pour voir si elle a suivi.
Ça fait 100 ans qu'il est mort.
Non, il est mort la semaine dernière.
Il est mort.
Voilà, c'est un réalisateur et scénariste, donc franceusiche, comme disait monsieur Gwen.
Voilà,
né le 24 janvier 1926 à
Nice, à Grasse. Ouais.
À Grasse ou à Nice? À l'hôpital de Grasse à Nice?
Voilà, c'est ça.
Donc attiré dès ses débuts vers la comédie.
Oui, tout
n'est-ce
à fait.
N'est-ce pas?
Oui.
N'est-ce pas?
Oh, il sait même pas qui c'est. Dit-elle buvant son verre. Lautner est surtout connu pour avoir mis en image les plus fameuses répliques de Michel.
Audiard.
Audiard, bonjour.
Leur collaboration la plus célèbre restant les.
Tonton Flingueur.
Ouais, pas que.
Oui, mais
enfin, c'est la plus célèbre.
C'est la plus célèbre.
C'est la plus célèbre.
Ben moi j'ai pas vu ça sur internet.
Touche pas au Grisby.
Moi aussi.
Non mais. Mais non, me touche pas au Grisby.
Bis salope. Bah oui,
mais d'accord, mais là on est là-dedans quoi.
Oui,
coup.
Non mais ouais. Oui non parce que je vous signale quand même que c'est dans le générique de ATC, le touche pas au Grisby.
Oui. Salope. Ah mais tu écoutes pas l'émission?
Aujourd'hui, c'est ma journée.
C'est la journée porte ouverte. Non.
Mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire.
Bon, voilà. Alors, donc
ces incursions dans les autres genres. Dans Le Professionnel en 1981, avec
Le Professionnel.
Jean-Paul Belmondo.
Voilà, Le Professionnel.
Jean-Paul Belmondo.
Le Professionnel.
Non, moi c'est plutôt Lino Ventura qui me fait rêver.
D'accord. Ou La Maison Assassinée en 1988 avec Patrick Bruel.
Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer.
Tu aimes Patrick Bruel, hein?
J'adore! Je trouve que c'est talent d'acteur!
Ah, mais oui!
Non, mais c'était génial, il est génial ce film.
Oui, il est génial ce film.
Tu as pas vu? Ah, mais non, tout ce qu'il y a dans la case, c'est vrai, excuse-moi. Connurent également un succès
je
auprès.
Je peux y aller
public.
Sinon, si tu préfères.
Mais pourquoi tu s'énerves?
Mais non, mais parce que je m'en prends plein la tronche.
Mais non, on discute.
D'accord.
Tu t'offusques?
Non, c'est bon, j'arrête, je m'offusque.
C'est drôle ça. On croirait que tu cherches les mots qui blessent.
C'est des images.
Les images, je sais m'amuser quand j'étais petite. J'ai passé l'âge. Je dis pas que lui était toujours très social, non? Il avait l'esprit de droite.
Oh, lui,
Quand tu parlais augmentation ou vacances, il sortait son flingue avant que t'aies fini.
J'écoute patiemment.
Connurent également un succès auprès du public. Point. Cet artisan prolifique n'en demeure pas moins une figure incontournable de la comédie française de l'après-guerre avec, bien sûr, Mr. Gérard Houry.
Oui.
Alors, Mr. Lautner est le fils de Léopold Lautner, 1893-1930. Oulala, là là, oulala, là là, qu'est-ce que c'est que ça?
En fait.
Mais c'est... Non, mais c'est inadmissible!
Mais je sais pas qui c'est.
Eh ben réponds.
C'est Ryan Gosling. C'est Thor peut-être.
Thor. C'est Thor le torse. Mais réponds au lieu de.
Allô.
Alors, il dort le gros con. Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Il entendra chanter les anges, le gugus de Montauban. Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère. au terminus des prétentieux.
Célèbre joaillier d'origine viennoise et aviateur qui participe à des meetings aériens, il sera pilote de chasse pendant la Première Guerre mondiale, et de la comédienne Marie-Louise Vittori.
D'Irone Saint-Cyr.
Tout à fait, qui apparaît dans les 11 films de son fils.
Oui.
11 de ses films.
Oui, 11 de ses films de son fils, puisque effectivement, elle a une carrière assez déclinante, et c'est grâce à son fils qu'elle tournera donc ses derniers 11 films.
Donc en 1933, après avoir passé une partie de son enfance dans le Midi, il monte à Paris avec sa mère qui va commencer sa carrière cinématographique, qu'est-ce de même année, et connaître un succès avec Les Deux Orphelines.
Ah oui, Les Deux Orphelines, c'est bien ça. C'est super triste, mais c'est super bien.
C'est vrai ?
Ouais.
C'est à cette occasion qu'il découvre le cinéma et fréquente les salles obscures. Mais cette période joyeuse sera ternie par le décès de son père, le 17 juillet 1938, dans un accident d'avion. Durant la Seconde Guerre mondiale, il est scolarisé au lycée Jean-Jean-Denis à Paris. Parmi cette période difficile, il essaie de préserver une jeunesse fêtarde. Puis, se sentant concerné par ce qui se passe en France, il n'hésite pas à venir observer de plus près les événements dans la capitale, ce qui ne manque pas de développer son sens critique. Mmh. Après la libération of Paris, Mr. George, après avoir obtenu un bac philo-science, se tourne vers le cinéma, notamment en faisant les petits boulots. Ses débuts au cinéma se font en 1945 comme décorateur dans La Route du bagne de Léon Matteau. En 1947, il est contraint de cesser ses petits boulots pour aller faire son service militaire en Autriche et va faire un stage de projectionniste 16 mm. Puis il est envoyé au service cinématographique des armées, SCA pour les gens qui connaissent, de Paris, côtoyant notamment Claude Lelond et Marcel Blouvard. Sorti de l'armée, son expérience en matière de pellicule lui vaut de devenir en 1949 le second assistant réalisateur de Sacha Guitry pour Le Trésor de Cantenac.
Durant les années
De Cantenac.
Ça n'a rien à voir avec Cantona. Durant les années 1950, il continue d'être assistant réalisateur Les Chiffonniers d'Emmaüs.
Ah oui, c'est bien ça.
Oui.
Avec l'abbé.
L'abbé.
Ben oui, l'abbé Pierre.
Oui. Comédien, virgule. Qu'il dut abandonner car il était trop timide pour jouer sur scène et n'avait pas les dons nécessaires. Ça arrive, hein. Il préfère rester pour jouer sur scène et n'avait pas les dons nécessaires.
Non plus.
J'ai relu la même ligne, c'est marrant.
Ouais, ça a relu la même ligne et puis on ne veut pas dire grand-chose.
Il préfère donc rester derrière la
caméra.
C'est bien, virgule. À travers les différents plateaux qu'il fréquente, il apprend très vite à user du système
D.
Bien. Qui lui confère une efficacité à toute épreuve dès qu'il s'agit de pallier les...
Les manques, les manques.
Mais c'est quoi, c'est un texte à trous là?
Oui, c'est un.
Des petits trous.
Encore des petits trous.
Ça n'a rien à voir. Grâce à un bon relationnel, il a pour habitude d'aller discuter avec les seconds rôles et figurants durant les tournages, ce qui lui donne le goût de devenir réalisateur, sachant mettre à.
Profit.
Non, mettre à l'aise les comédiens. En 1958, le directeur de production, Maurice Juven, le remarque qu'il confie la réalisation de La Môme au bouton. Tourné en un mois avec des acteurs de boulevard. Ce n'est pas des putes, bien sûr. Malheureusement, le premier long métrage de Lautner est un échec commercial. Ça arrive. Après ce premier essai, le cinéaste se voit confié par Juven la réalisation de Marche ou crève, c'est la chanson de Trust. Donc cette adaptation de roman de Jacques Murray que le réalisateur signe avec Pierre Laroche, qui collabore.
Collabore.
Ça, oui. Est-ce que tu veux que je lise ta feuille?
Non.
Collabore.
Collabora.
Ah bon. Moi, j'avais compris. Ah, Bora Bora ?
Qui n'est pas un lac.
Oui, non. Ni.
Sur 5 films du réalisateur, Lautner le considère comme sa première vraie réalisation. Le film amortit l'échec du précédent, c'est déjà ça, lui permettant de réaliser avec son équipe Arrêter les tambours. Ce film donc marque le début de sa collaboration avec le chef opérateur Maurice Felou.
Felou ?
Oui, Felou.
Ah.
C'est bien. Mais c'est en 1961 qu'il va se faire connaître du grand public avec...
Le monocle noir.
Que Gwen va nous parler tout de suite.
Oui, alors...
Dont Gwen va nous parler.
Oui,
dont Gwen va nous parler que de suite.
De suite. Alors, effectivement, alors, ce qui est très curieux,
merci,
c'est
Gwen.
Que le monocle noir, on ne le trouve pas en DVD.
Non, c'est même à l'heure actuelle.
Ouais.
Il est sorti en 2012, non?
Ouais, alors que les deux autres du monocle, si. Alors, donc, en fait, c'est une.
Ah, il a dit donc et que lui.
Oui. Donc c'est une réunion de nostalgiques hein, du Troisième Reich. Donc. Qui attendent apparemment un survivant justement de ce Reich, et parmi eux se trouve le commandant Dromar, dit le monocle, hein, qui était joué d'ailleurs par monsieur Paul
Meurice.
Paul Meurice, oui. Parce qu'il faut savoir que donc, celui-là était en 61. En 62, il y a l'œil du monocle. Donc là où les services britanniques et soviétiques sont à la recherche d'un Allemand, Hector Schlumpf.
Schlumpf.
Et donc ce dernier veut évidemment récupérer un trésor qui est en...
C'est pas le trésor de Lancôme ?
Non. Ah. qui est... Et qui était enfui au large de la Corse, de l'île de Beauté, en 1944.
Ça a été tourné à Bonifacio.
Voilà, tout exactement. À fait. Et donc, évidemment, Hector est protégé par le monocle en échange, évidemment, de certains papiers.
Avec le sergent Poussin.
Voilà, c'est ça. Poussin. Tant Poussin.
Joué par Dalban.
Oui, le fameux Dalban. En 64, il y aura le monocle riz jaune. Hein, cette fois-ci, le monocle doit enquêter sur des attentats qui visent les installations nucléaires avec l'atomique mondiale. Et il suit un couple, puisqu'ils sont apparemment dans son viseur. Et à Hong Kong, son acolyte est assassiné. Et évidemment...
Hugo vient de faire semblant de vomir. En
bah oui,
je crois qu'il a trop mangé.
Oui,
à midi, il devait y avoir son gâteau d'anniversaire.
C'est ça.
Non.
C'est...
Si t'as mangé,
j'ai
mangé avec les bougies.
Voilà, c'est ça.
Et on peut se dépêcher.
Oui, c'est la maison de cire. Ouais, allez. Voilà.
Parce que t'as la famille qui t'attend à la maison pour continuer.
Non. Oui, Gwen, t'es en train de parler.
Oui. Donc la jeune femme, évidemment, ne semble pas innocente à ce meurtre.
Non, innocente. Si
innocente.
C'est une jeune femme.
Oui, c'est... merci. Oui, mais on ne sait pas. Droma découvre qu'il s'agit en fait.
T'as dit la jeune fille.
La jeune femme. Donc, Dromar découvre qu'il s'agit en fait d'une secte anti-nucléaire et qui veut détruire, évidemment, le porte-avions américain qui mouille au large de la baie. Donc, voilà. Le problème, c'est que pendant ce tour...
T'as un gros souci. T'as un gros souci,
oui. Je confirme.
Pourquoi ?
Donc...
Mais on a le droit de faire des bruitages.
Des bruitages.
Oui. Alors c'est quoi l'histoire?
Et en fait, pendant ce tournage,
oui.
Paul Meurice va être assez affect avec sa partenaire Barbara Steele, hein, qui était une égérie des films d'horreur.
D'épouvante,
effectivement.
Ça n'existait pas à l'époque.
Et c'est pour ça que Lautner, dégoûté, ne fera plus de monocle. Voilà. Et il y a une apparition de Lino Ventura durant ce tournage, hein, le monocle riz jaune. Voilà.
C'est formidable. C'est un donc en 1961 donc, qui va faire connaître en public Monocle Noir, adapté du roman du colonel Rémy, il fallait le dire ça.
Je oui,
si
oui. Non, je ne l'ai pas dit.
Donc cette comédie policière avec Paul Meurice, mais ça, monsieur Gwan nous a tout expliqué.
Ouais, les trois, hein. La trilogie.
D'ailleurs, il en fera plusieurs trilogies. Mm-hmm. En 1962, il tourne Le Septième Jury. Donc drame psychologique avec Bernard Blier. Mm-hmm. Gunnel va nous parler tout de suite.
Bernard Blier ou...
Non, tant Bernard.
Tant que tu ne parleras pas français, ce sera fini, je ne parlerai plus.
Quoi ? Que hein ?
Tant que tu parleras pas français, je n'interviendrai pas.
D'accord. Sa façon de tourner usage du chant contre chant, qui permet de jouer avec la profondeur et d'orchestrer ainsi une composition visuelle particulière, devient une de ses marques de fabrique avec les gros plans.
Il aime bien les gros plans.
De manière à mettre en valeur les comédiens et le dialogue, lui vaut d'être recommandé par Bernard Blier.
Oui, Bernard, oui.
Et Michel Audiard, donc il va collaborer avec Lautner pour une dizaine de films, 12 il me semble, hein,
oui.
Monsieur Gwen.
Oui, tout à fait.
Non ? Oui ? D'accord. Et Alain Poiré, patron de Gaumont International, une filiale de la Gaumont chargée de production de films. Mm-hmm. Une société qui a un palmarès, hein, hors du commun, n'est-ce pas, Anel ? Merci. Donc, important de grands succès populaires, en particulier dans le domaine de la comédie. Poiré a la réputation de savoir dénicher les...
talents.
Merci.
Je suis bon là-dessus.
En 1963, Poiré lui offre la réalisation des
Tontons Flingueurs.
Si c'est notre pognon qui sont en train d'arroser les petits comics, ça va saigner.
Que donc, ouais, donc, pareil,
oui, qui fait partie donc de la trilogie du fameux truand Max le menteur.
Donc...
C'est génial. Donc il y a évidemment le film Touchez pas au Grisby de Jacques Becker et Le Cave se rebiffe de Gilles Grangier. Le Cave se rebiffe, oui, tout à fait. Avec des textes d'Audière et évidemment du romancier Albert Simon.
Moi j'ai écouté une interview de Lautner qui disait que quand les Tontons Flingueurs sont sortis, ils étaient sortis dans 4 salles seulement. Mmh. La critique était complètement contre eux.
Mmh.
Ils ne faisaient pas du tout l'unanimité.
Ah non, du tout. Il a eu très peu très peu de succès à sa sortie.
Bah moi je dis que je lâcherai plus une thune. Et je vous invite à tous en faire autant.
Vous invitez. C'est très aimable, mais il y a des invitations.
Qu'est-ce qui te gêne, toi?
Le climat. 3 morts depuis hier. Si ça doit tomber comme à Stalingrad.
Et en fait, c'est les rediffusions télévisuelles qui ont fait son succès. Et depuis, alors ce qui est très curieux d'ailleurs, parce que maintenant les journalistes ne cessent d'encenser ce film, alors que c'est quand même eux qui l'ont descendu quand il est
sorti. Oui, enfin, c'est pas les mêmes journalistes.
Oui, oui non, mais oui, c'est oui, pas les mêmes journalistes.
Un célèbre critique, oui, parce que c'est on était aussi sur la nouvelle vague à l'époque et il y avait vraiment que ça pour les journalistes. Donc un célèbre Mr. Henri Chapier, hein, qui avait dit vous visez haut mais vous tirez bas.
Voilà.
Donc ça voulait bien dire à l'époque. Donc ce que ça voulait dire.
Voilà, c'est donc la trilogie de Max et pour l'occasion dans ce film Max se nomme Fernand Naudin. Donc il est joué par Lino Ventura qui est un ex-truand donc reconverti dans la vente de matériaux de travaux publics à Montauban. Et en fait, il vit assez plan-plan jusqu'à ce que, en fait, un de ses vieux amis, Louis, dit le Mexicain, appelle à son chevet pour lui confier évidemment toute l'affaire et ainsi que l'éducation de sa chère Patricia.
Patricia, mon petit, je voudrais pas te paraître vieux jeune et encore moins grossier. L'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois, mais la vérité m'oblige à te le dire, ton Antoine commence à me les briser.
Et c'est évidemment avec l'aide du notaire, Maître Folas, joué ici par Francis Blanche, et de Jean, donc était un ex-cambrioleur devenu majordome, Robert d'Alban. Et donc, face à lui, il se trouve les frères Volfoni, Raoul, donc Bernard Blier, et Paul-Jean Lefebvre.
On ne te connaît pas. Et laisse-nous te dire que tu te prépares des nuits blanches, des migraines, des nervous breakdowns, comme on dit de nos jours.
Et évidemment, sans parler de Théo et de son pote Tomate qui est joué ici, Théo joué ici par Horst Frank, parce qu'il faut savoir que la Gaumont n'avait justement pas confiance en Monsieur Lautner et donc ils avaient décidé de partager enfin du moins l'argent du
la production
avec des Italiens et avec des Allemands. C'est pour ça qu'on trouve
il y a des acteurs
italiens, notamment le porte-flingue Venatio Venantini.
Oui, parce que le rôle de Ventura avait été pressenti pour Jean Gabin, mais
ouais,
il était en désaccord.
Parce
qu'il imposait son...
Voilà, c'est ça, toute son équipe. Ouais. Parce qu'à l'époque, on l'appelait le vieux. Hein, le Gabin, c'était un maître, donc, puisqu'il était quand même, il avait passé un certain âge. Donc Lautner avait décidé que nenni, donc il a choisi Lino Ventura. Et Lino Ventura était quand même un petit peu en désaccord lui aussi, puisqu'il ne se sentait pas vraiment de faire un film comique. Hein, puisqu'il faut savoir que les livres, par contre, sont bien plus sérieux, quoi.
Ouais, mais Lino Ventura, il a la classe internationale.
Oui, c'est pour un ancien catcheur.
Il a beaucoup tourné en Italie aussi.
Oui. Parce qu'il faut savoir quand même que c'est une grande parodie. Hein. Je pense que c'est d'ailleurs les années de parodie de Georges Lautner, ces fameux films d'espionnage et de gangsters aussi. Donc c'est hyper parodique vis-à-vis du roman. Hein. Donc je pense que c'est le gros film de Lautner. Puisque avec Audiard, ils ont quand même fait des scènes cultes, notamment celui de la cuisine que Michel Audiard ne voulait pas au début et puis qui s'est révélé évidemment excellent. C'est, en fait, les Tontons Flingueurs, c'est un mélange d'argot et de roman noir. Et ce qui, en fait, finalement, aura été repris plus tard par un autre réalisateur de l'argot et du Moyen-Âge, de monsieur Alexandre Astier, qui en a fait évidemment les grands heures de Kaamelott. Et qui a fait beaucoup de références justement à Audiard.
C'est vous, Napthieu ? Vous laissez travailler les honnêtes paysans ? Sans ça, vous allez récolter des fausses dans le cul ! Dernier ultimatum ! Si vous livrez pas la poule, tu s'intègres toute la vallée ! Bon, attention, hein ! Vous avez affaire à un passionné de violence ! Je suis à votre place, je me méfierai ! Oh, bonne merde ! La tuile ! Je suis bien confus ! Eh ben, votre poule, elle est entièrement décédée ! J'ai retiré la tête du reste, pas plus tard ce matin ! J'espère que ça va pas vous faire défaut ! Vous avez tué ma poule ?
Il rencontre donc à la même époque Mireille d'Arc hein, et l'a fait tourner dans une dizaine de films.
Oui, tout à fait. Oui.
Des pissenlits par la racine,
voilà,
Les Barbouzes, nouvel opus du groupe Audiard, Lautner, Blier, Ventura, Blanche dans Gallia, film sur la libération sexuelle, Ne nous fâchons pas et La Grande Sauterelle entre autres que Gwen va nous parler.
Moi je veux parler du pissenlit par les racines.
Avec Louis Funès.
Oui, voilà, parce que c'était un jeune premier à l'époque hein, et il y a Mireille d'Arc qui fait aussi ses premiers pas, qui joue Rocky la Braise. Et il y a aussi un petit jeune qui s'appelle Michel Serrault.
Oui. Un petit jeune.
Voilà, c'est ça. Et il y a aussi Darry Cole. Hein. C'est pas un gros film. Hein. C'est pas non plus un gros scénario, mais voilà.
C'est une comédie, quoi.
Voilà, c'est ça. Et après, effectivement, on a Les Barbouzes. Hein, donc, l'histoire d'un marchand d'armes qui meurt, Constantin Bernard Shaw. Et évidemment, devant sa dépouille, se présente sa femme, donc sa veuve du moins, Mireille d'Arc. Et quatre de ses amis, enfin, ses amis des barbus, et comme dit, on dit dans le livre et le film...
Un barbu, c'est un barbu, trois barbus, c'est des barbouses.
Voilà, et donc il y a son faux cousin, le français, Francis Lagneau, donc Lino Ventura, dit Petit Marquis, dit Chérubin, dit Talon Rouge, Falbala, Belle Manière, Requiem, Bazooka, La Praline et Belle Châtaigne. Autant vous dire des beaux petits sobriquets. Il y a son faux psychanalyste, Hans Müller, donc évidemment l'allemand, son frère de lait soviétique Boris Vassiliev, Francis Blanche, qui lui se fait surnommer Trinitrotoluène.
Écoutez Boris, cessez de jouer avec vos petits produits, sinon un jour vous nous ferez péter la gueule.
Plus connu dans les comics, enfin dans les dessins animés Tex Avery sous le nom de TNT. Évidemment son confesseur suisse Eusebio Carafelli, évidemment Bernard Blier. Alors je voulais aussi rajouter que dans les Tontons Flingueurs, il y avait un petit jeune assistant qui s'appelait Bertrand Blier. Donc voilà, déjà.
Ah,
déjà, voilà. Donc évidemment, tous ces espions veulent les brevets, notamment ceux des armes atomiques. Mais il ne faut pas oublier, évidemment, l'ami Rich O'Brien, l'américain, ainsi qu'un nombre inhabituel de Chinois qui rôdent aux alentours du château.
Et d'ailleurs, là, dans le château, il avait une réputation de vraiment être hanté.
Ouais, voilà, c'est ça. Et il y a aussi beaucoup de clins d'œil au Tonton Flingueur aussi. Donc, voilà. Il laisse, mais c'est dans toute la veine parodique des premiers films de Monsieur Lautner.
Donc, en 1968, il réalise le film policier Le Pacha. Voilà. Dialogue parodiaire, bien sûr, avec Jean Gabin. Au début du tournage, donc l'atmosphère et lourde, Gabin se retrouve désarçonné par le style Lautner, des gros plans à répétition, oui. De nombreuses coupes. De plus, le réalisateur, timide par nature, est déjà impressionné.
Impressionné.
Impressionniste.
Oui, oui. Mais finalement, il n'y a pas que Abélatif Kechiche qui fait des gros plans.
Oui, oui. Adèle, si tu nous écoutes. Très impressionné par le comédien, mais quand les premières rushes sont montées, mis en musique et projetées, Gabin comprend alors le style et le ton du film. Cela le décide à faire confiance à son réalisateur pour le reste du tournage et la suite s'est bien passée.
Pour faire le synopsisme, en fait, c'est l'histoire d'un convoi qui est attaqué par un bandit qui s'appelle King King. André Pousse, le célèbre, et au bazooka. Et ensuite, il tue ses complices, un petit peu comme Joker, le Joker de Nolan.
Yes.
Et ainsi qu'un Gouvion, qui est un inspecteur qui était chargé de protéger ce convoi. Et en fait, il le maquille en accident. Le commissaire divisionnaire Louis Joss Gabin enquête, et parce que lui, il n'est pas du tout d'accord avec cette hypothèse de l'accident. Et là, il va décider de faire un peu de ménage dans le milieu des malfrats parisiens grâce à Nathalie, qui en fait était la maîtresse de ce cher Gouvion, voilà, tout à fait. Et en fait, il apprend que Gouvion n'était pas si blanc que ça. Alors, il faut savoir aussi que ce film a eu beaucoup de problèmes avec la censure parce qu'il a été jugé trop violent. Notamment, Gabin a fait quand même un passage à tabac et qu'il y a quand même quelques images qui ont été enlevées. Et puis, il y a aussi la fameuse chanson Requiem pour un con qui avait été interdite de radio, jugée trop vulgaire, voilà.
Donc, à noter les apparitions de Serge Sauvion, donc l'acteur doublant Peter Falk dans la version française, voilà, de la série policière Columbo, dans le rôle de l'inspecteur René, ainsi que celle du chanteur Serge Gainsbourg,
oui,
du cascadeur Rémi Julienne, donc il joue un motard, ouais, du journaliste Léon Zitron, bien sûr, très connu,
bah oui,
et de Véronique de Villette.
D'accord.
De Véronique et d'Avina, bien sûr.
Oui, c'est ça. La fameuse...
Annelle est partie, excusez-moi. Voilà.
Avec la fameuse réplique, comment ça s'appelle, de quelqu'un à Nathalie, on n'amène pas de saucisses quand on va à Francfort.
J'ai des envies de voyage. L'Océanie, Bora Bora, les Vainées. Tu connais?
Pourquoi? Tu veux m'emmener?
On n'amène pas des saucisses quand on va à Francfort.
Tu pourrais dire une rose quand on va sur la Loire. Question de terme.
Donc, comme le disait Gwen tout à l'heure, une fois le montage bouclé, le film est présenté le 5 mars 68 à la commission de censure, qui est ulcérée par la violence du film. Non seulement par le fait que le personnage d'André Pousse, donc Marcel Lura, dit Quinquin, tue ses complices, mais aussi parce que le personnage de Gabin, Louis Joss, dit le Pacha, un commissaire divisionnaire, tabasse un suspect dans un bistrot et tue sans sommation Lura à la fin du film.
Voilà, ouais.
Pour la commission, il est impossible de montrer dans les salles de cinéma une telle vision de la police, mais Lautner ne se laisse pas démonter pour autant et se lance dans des discussions très poussées avec les producteurs et les censeurs pour soutenir son film, n'ayant pas obtenu gain de cause. Il va organiser des rencontres radiophoniques faisant venir des jeunes qui racontent comment ils ont été maltraités par la police lors des interrogatoires. Au terme de cet affrontement, la censure va accepter et laisser passer un seul et unique coup de poing. Et de laisser la fin telle qu'elle est. Satisfait, Lautner révise le montage de son film en supprimant donc deux coups de poing de Gabin, les deux derniers qui envoient le suspect s'effondrer en sang à travers une vitre. La séquence est néanmoins visible dans la bande-annonce de l'époque. Sur l'affiche promotionnelle du film, il est affiché quand même interdit aux moins de 18 ans.
Ah, carrément ?
Ouais.
Ah bah ouais.
Moins de 18.
De plus, la censure s'attaquera à la chanson, comme le disait Gwen, de Serge Gainsbourg, Requiem pour un con, en raison de sa vulgarité. Elle sera interdite de diffusion sur les ondes radiophoniques.
Oui, cette chanson. Lui avait l'habitude.
Comment ?
Lui, il avait l'habitude.
Oui. Cette chanson bénéficiera d'une version remixée en 1991, ponctuée d'électro-funky et des ricanements de Serge Gainsbourg. Elle sortira quand même le lendemain de sa mort et sera largement diffusée en radio en guise d'hommage. 9 ans après le Pacha, Audiard et Lautner adapteront encore au cinéma un autre roman de Laborde, Mort d'un pourri. Cette fois-ci avec Mister Delune.
Ah oui, Delune, Delune. George Delune. Ah non, Alain Delune.
Après l'échec de son long métrage américain La Route de Salina,
ah, oui.
D'accord, il tourne la comédie Laisse aller, c'est une valse.
Voilà, avec Jean-Yann. Hein. C'est la seule fois où il tourne avec Jean-Yann, d'ailleurs, qui est un homme qui sort de cabane. 3 ans pour une sombre histoire de bijoux. Et il veut retrouver sa femme Carla. Parce que quelqu'un lui a dit que. Hein, voilà.
Carla, qu'il ouais. l'aimait encore.
Non, qu'elle était responsable de son emprisonnement. Et donc il va la kidnapper avec Michel. Michel. Constantin.
Bien sûr.
Voilà, donc il y a.
Qu'on et on retrouvera dans la valise aussi.
Ouais, si. Celle d'RTL ? Ah non, dans la valise. donc, et évidemment, le commissaire n'est autre que Bernard Blier. Il y a aussi la présence de Rufus et d'un petit barman qui n'est autre que Coluche.
Eh oui, c'est ses débuts au cinéma.
Et le scénario est de Bertrand Blier, hein, ainsi que les dialogues. Merci.
On a dit qu'on faisait des bruitages.
Non. On a du
sort. Ok.
Non, tu restes.
Ah, donc, faut savoir,
voilà.
Hein.
Non. Donc voilà.
Donc voilà quoi.
Donc, oui. Voilà, donc vous le laissez aller, c'est une valse, voilà.
Merci.
D'accord, parce que donc
1971.
Voilà. Ouais, parce qu'on attendait. Les années 70 seront seront prolifiques avec pour Lautner qui connaît un succès sur succès avec Il était une fois un flic avec
Alain Delon.
Bien. Quelques messieurs trop tranquilles. La valise, donc je disais. Les Saints de glace, toujours aussi avec Alain Delon et Greta.
Qui est d'ailleurs le film le plus sérieux, entre guillemets, de notre cher Georges Lautner. Hein. L'histoire d'un écrivain qui va sur la côte et qui rencontre une femme, Mireille Darc. Hein, l'écrivain, c'est Claude Brasseur. Et en fait, qui ressemble à l'héroïne de son roman. Il s'intéresse à elle, mais elle a des petits problèmes. Et notamment, elle est protégée par un avocat et ses hommes de main qui n'est autre. Cet avocat, Alain Delon, puisque apparemment, cette dame, elle a tué son mari à coups de pic à glace. Ce qui n'est pas sans rappeler un certain film qui se passe. Voilà. Encore une histoire de blonde et de pic à glace. Faut faire gaffe, les gars.
Non, mais alors, en plus, moi, j'aimerais juste qu'on précise. Le pic à glace, est-ce que quelqu'un a un pic à glace chez soi ?
Non, c'était à l'époque, il n'y avait pas les glaçons, madame. C'est pour ça qu'il y avait des pics à glace.
Non, puis c'est surtout, comment ça s'appelle ? Des gens qui ont les moyens d'avoir des pics à glace. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir un gros bloc de glace chez soi. Ce qui est quand même pas très commun chez tout le monde d'avoir des
c'est-à-dire qu'un pic à glace, c'est donc l'outil qui te sert à découper le gros bloc de glace qu'on
a livré. Non, il ne te découpe pas.
C'est pour faire des petits bouts de glace pour mettre dans tes verres, en fait.
Dans ton whisky, par exemple.
Oui, non, mais d'accord, mais ton bloc de glace, tu le stockes où ?
Dans un réfrigérateur.
Dans un réfrigérateur.
C'est pas conseillé de le mettre au four.
Non. Même des fois, tu peux le mettre autour de ton enfant, mais bon, ça, c'est d'autres.
Donc, du coup, ouais, c'était à l'époque, à la place des glaçons, il y avait des gros blocs de glace qui étaient vendus. T'achetais ça, tu mettais ça dans ton frigo.
De toute façon, avant qu'on fasse. Bon, on va faire une émission spéciale glaçon. Hélène,
parce que cette histoire de pique à glace, c'est quand même.
Non, mais
hyper...
parce qu'en fait. Non, mais c'est parce que c'est plus classe. Avant qu'on ait l'invention des réfrigérateurs, on descendait des blocs de glace.
Oui, ça,
et voilà, on les mettait dans des bars et que les mecs, il fallait qu'ils fassent.
D'accord, donc c'est pour donc ça qu'aujourd'hui, le pique à glace a complètement disparu.
Bah voilà, c'est ça.
Et que du coup, on n'a plus de films avec des piques à glace.
Parce
que du coup, avec un bac à glaçons en plastique, c'est beaucoup moins violent, quoi.
Ah oui, ça peut être. Ah non, j'ai été atteint par un glaçon. Je meurs.
Tu peux planter ta pince à glaçons dans un œil.
Et oui, et le tirer.
T'as une pince à glaçons chez toi ?
Oui.
J'ai une pince à sucre.
Oui, c'est pareil.
Non.
Ah, si.
Moi, j'ai une pince à cornichons.
C'est le fameux tri à un truc. Et...
Oui, mais c'est pas exactement la même chose. Une pince à sucre, c'est plus petit qu'une pince à glaçon.
Ah, bah oui, forcément, puisque le glaçon est plus gros que
le cornichon. Que le sucre.
Qu'est-ce que c'est un lapsus révélateur ?
Voilà.
Non, parce que moi j'ai une pince à cornichon.
Ah, tu m'as fait peur.
Comme quoi, les gens, faites gaffe avec tous les objets que vous avez dans votre maison, vous pouvez faire un assassinat. Donc voilà.
Il y a une très belle scène dans Hellphone. Oui, ils sont dans une cuisine et oui, bon, aucun rapport avec
oui,
le meurtre, mais
non, mais je pense que maintenant on va marquer sur les objets. Attention, cet objet peut tuer.
Donc... Fouettez-tu, pincez-tu.
Voilà, c'est
c'était
ça.
C'était donc les seins de glace.
Oui, excuse-moi. Donc du coup, l'histoire du piquet de glace.
On continue aussi.
Désolé de t'avoir coupé, quoi.
Non.
Non, piqué. Je dirais plutôt.
À coup de pique
non,
à glace.
Non, c'était, il fallait. Il fallait le signaler.
Oui. Ah non, mais ça.
On aura tout vu donc et mort d'un pourri et tournant donc avec des acteurs confirmés comme Jean-Pierre Marielle, Alain Delon et Pierre Richard et des acteurs débutants comme Gérard Lanvin et Mayou Mayou.
Oh, oui, Mayou Mayou. Gérard Lanvin, il débutait.
Mm. Eh oui, il débutait, hein, le fameux Mayou Mayou.
Après une collaboration difficile avec Delon, donc dans Les Scènes Glaces et Mort d'un pourri, Georges Lautner fait tourner Jean-Paul Belmondo à partir de 1979 dans Flic ou Voyou.
Vous voyez l'histoire donc, de Stanislas Borovitch, qui est un bœuf carotte et qui utilise des méthodes un peu musclées, hein, on peut le dire, dans sa lutte contre les ripoux. Donc on l'envoie à Nice, hein. Nice, où la police et la mafia font copain. Mais voilà que sa fille fugueuse le rejoint, qu'il rencontre une auteure bourgeoise et jaloux, qui n'est autre
jalouse.
Que... Jalouse. Mais c'est pareil.
On t'a dit une auteure, donc t'es obligé de mettre après...
Non, moi je conjugue pas, j'ai pas de gens. Donc, qui n'est autre que Marie Laforêt.
Ouais.
Et c'est le premier grand succès de Monsieur Belmondo.
Oui. Succès commercial, tu veux dire?
Oui, bah oui, bien sûr.
Avec les inspecteurs Ray et Massard.
Voilà, c'est ça. Et notre cher Claude Brossé qui jouait Achille Wolfoni. Wolfoni, référence évidemment au tonton.
Oui.
Voilà. Et puis en l'année d'après, il y aura le Guignolo. Hein.
Donc oui, parce que c'est grâce à leur amitié, Belmondo et Lautner vont signer justement pour trois films. Donc Gwen vient de le dire, le Guignolo, le professionnel. Avec
voilà, en 81, ouais. Donc évidemment, l'histoire de ce fameux, de Jocelyn Beaumont dit Joss. Référence au Pacha, puisqu'il s'appelait aussi Joss, qui est un agent des services secrets français, qui veut se venger en fait, du gouvernement, qui l'a dénoncé dans une de ses missions, puisqu'il devait aller abattre un dictateur africain. Et puis finalement, il y a eu un changement historique, et finalement, la France, au lieu de retirer son agent, a préféré le dénoncer au dictateur. Celui-ci va être emprisonné, torturé, il va se libérer, arriver à Paris pour se venger. Là, on va lui envoyer Robert Rosen, hein, qui est un commissaire assez musclé et efficace, pour le stopper. Joss va l'abattre, prendre sa place et créer un piège, voilà. C'est en fait un film qui finit assez mal pour Monsieur Belmondo. Hein.
Et avec la dernière prise au château de Maintenon.
Voilà, c'est ça. Et en fait, surtout connu pour la fameuse chanson, enfin musique d'Ennio Morricone, Shimai. connu aussi pour la publicité Royal Canin que les nuls avaient transformé en Royal Rabbin.
Donc ça, et, c'était et, un énorme succès en 1980.
Ouais, et aussi la présence de Bernard-Pierre Donadieu. Hein.
Donc la seconde moitié des années 80 marque la fin.
80.
Marque la fin.
Marque la fin. Marque je la connais pas celui.
Marque la fin de sa collaboration avec Michel Audiard, bien sûr, qui décède en juillet 1985.
Oui, sacré.
Et aussi donc entre succès, La Maison Assassinée.
Ah, avec
Patrick.
Oui. Cruel. Patrick.
Donc Gwen va nous parler tout de suite.
Oui, tout à fait. Donc là, en fait, en 1880.
On va pas reparler de Patrick Bruel.
Si,
PB. Il était jeune acteur.
Oui, ah, mais moi je.
Ouais, bah, jeune, vieux, il est toujours mauvais acteur.
Oui. Non. Tu as même pas vu ce film, je parie.
Donc c'est en 1896, en Haute-Provence, la famille Monge.
La dernière fois que tu m'as traîné pour voir un film de Patrick Bruel, j'ai.
Patrick Bruel.
Quoi?
Oui. Patrick Bruel.
Revenez quand vous aurez une phrase, madame.
J'ai oublié la moitié des lettres.
Pas de challenge.
Ah mais Patrick il fait cet effet là, ouais. On oublie ses voyelles ou ses consonnes.
Ça arrive madame, hein.
Reprenez
votre souffle.
La dernière fois que tu m'as traîné pour aller voir un film de Patrick Bruel.
Non, je t'ai pas traîné, d'ailleurs on n'était même pas ensemble.
J'ai cru que j'allais te déglinguer, c'est
ah
qui,
oui,
c'est... qui est-ce qui m'a traîné? Si c'est toi qui
c'est
m'a dit,
prénom.
Il faut absolument aller le voir et tout, j'y suis allé, t'étais même pas là, c'est vrai.
Bah oui je l'avais vu avant.
Bah oui il allait pas le voir deux fois.
Mais tu avais dû t'aurais dû te renseigner avant.
Mais je me suis
moi j'ai trouvé ça bien, moi je trouvais ça marrant.
Ouais, c'est assez marrant. C'est...
Ouais. Ah, Gwen aussi a aimé, c'est normal, c'est une pièce de théâtre.
Voilà, c'est ça. Donc la famille Monge est assassinée par trois inconnus. Voilà, évidemment, seul Séraphin Monge, tel Harry Potter, échappe au massacre. Il revient
sûr,
20 ans plus tard.
Toujours des prénoms à la con dans ces films, lui.
Bah, en même temps, c'était l'époque. Hein. Il recherche à résoudre le mystère, mais il semble que quelqu'un le devance. Il y a Anne Brochet, hein, et puis Yann Colec. Qui est un acteur qui a une gueule, hein, puisqu'il joue évidemment une gueule cassée de la guerre 14-18.
Ça avait été tourné vers Fort Calquier.
Ouais, tout à fait. Oui. Il est très bien ce film. Et il y avait aussi un petit peu avant la fameuse Vie dissolue de Gérard Flock. Donc avec notre cher Roland Giraud, Clémentine Salarié, Jacqueline Maillan, hein, qui avec sa fameuse scène de Johnny de Jeanne Masse, Anne-Marie Chazelle, Gérard Rinaldi, Michel Galabru, Mathilde Almeida, Christian Clavier, puisqu'on est lancé dans les grands succès, parce qu'on dit qu'il a quand même eu un petit passage à vide, hein, notre monsieur Lautner, puisqu'il a quand même fait le Cowboy avec Aldo Maccione, hein, et puis La Cage aux Folles 3,
oui.
Aussi, même si c'est entre guillemets un succès, j'aurais d'estime au grand public, hein, évidemment.
C'est une comédie, hein.
Ouais, mais voilà, donc l'histoire d'Albin qui part en Écosse puisqu'il a reçu l'amour en héritage, ah non, l'héritage d'une grande tante.
Château Vallon.
Ouais. Non, ça n'a rien à voir, l'amour en héritage, c'est une série.
Mais c'est Château Vallon qu'elle s'appelait, le
ah,
générique.
Non. L'amour en héritage, c'est un truc, enfin bon, on va pas rentrer là-dedans. C'était avec Victoria Principal.
Ah.
Voilà.
T'es fan?
Ah oui.
T'avais quel âge quand ça passait?
Oh mais j'étais hyper jeune moi. Attends.
Il revenait d'Afrique du Sud.
Ouais, j'étais post-prébuère.
C'était la première.
Non. Oh non. C'était Sophie Marceau dans la poupe.
Ah ouais.
Ah ouais.
Yeah.
C'était qui pour toi la première?
Jeanne Moreau dans Jules et Jim. Ok.
Non. je sais pas.
Oui, donc évidemment, Albin qui doit épouser quelqu'un et avoir un enfant pour recevoir le fameux héritage de la Tata décédé, donc toujours avec Michel Serrault et Hugo Tognazzi et Michel Galabru. Donc voilà, c'était le passage des films, comment dire...
Des échecs, on va dire, commerciaux. Tourne son dernier film pour le cinéma, L'Inconnu dans la maison avec
moi,
Mister Belmondo.
Moi, celui qui joue dans la Boom.
Qui ne connaît
ah non. Il est moche,
pas le succès.
Ouais, mais attends, il lui met le casque sur les oreilles et lui dit « Dreams are my reality ». C'est trop beau.
Oui, c'est oui, d'ailleurs, on n'en fait plus des booms maintenant. C'est carrément des trucs avec des parties. On
c'est
filme,
direct
on
que tu vas en teuf, ouais, tu mets voilà, la voiture dans la piscine.
Voilà, c'est oui, aussi. À l'époque, avant, tu disais « Maman, je l'aime, mais t'inquiète, je coucherai pas avec lui ». Maintenant, c'est non, mais maman, j'ai couché avec lui, mais t'inquiète, je l'aime pas.
Bah, c'est bien, en plus, sachant que Gwen a une fille qui va bientôt atteindre la puberté, c'est rassurant.
Non, mais je l'envoie chez les maristes. Elle ressortira à ses 34 ans.
Chez les Marines.
Non, les maristes.
Tu voulais parler avant de L'Inconnu dans la maison, Gwen, ou pas?
Oui, L'Inconnu avec Christina Reali, hein, puisque c'est l'histoire d'un avocat qui était un grand maître du barreau. Et donc voilà.
Il fait ce geste parce qu'il a parlé du barreau. Enfin bon.
Tu veux que je te raconte une blague?
À la fin, madame.
À la fin, tout oui. à fait.
Mais non, je vais pas m'en souvenir.
D'accord, elle a doute. Ouais, d'accord, ok. Donc, il y a un grand maître du barreau, et évidemment, qui va sombrer dans l'alcool suite au décès de son épouse, dont sa fille le porte responsable, et sa fille qui n'est autre que Christina Reali. Et un soir, en rentrant chez lui, il entend un coup de feu, un type est tué, et en fait, c'est l'ami de sa fille qui est accusé, et donc il va décider de défendre justement ce. Monsieur, voilà, mais c'est vrai que c'est un. Voilà, c'est pas un gros gros film, mais bon, voilà. C'est the Lost, but not the least.
Yeah.
Oui, parce qu'en 1942. Mais
c'est loin, ça. J'ai une super blague sur les inconnus dans les maisons.
Non. Donc,
il a souri, hein, je tiens à vous dire qu'il a souri.
Oui, on parlait de Hugo. Hein. Donc, il y avait déjà eu Les Inconnus dans la maison, qui était de Henri-Georges Clouzot. Et à l'époque, c'était Rému qui jouait l'avocat. Donc c'est finalement, L'Inconnu dans la maison était un remake.
George Lautner fait partie des cinéastes populaires peu appréciés par la critique de l'époque. Hein, mm-hmm,
tout à fait.
En 1963, lorsque sort Les Tendons Flingueurs, comme on l'avait dit, le film est éreinté par la critique, le trouvant trop caricatural et à peine divertissant.
Il faut reconnaître. C'est du brutal. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme.
J'ai trop un goût de pomme.
Il y en a.
Je veux parler d'une une femme, on peut en cacher une autre. Donc, sa fameuse collaboration avec Miu Miu, puisqu'elle joue Alice, qui mène en fait une double vie. Elle est secrétaire médicale à Paris et vit avec Philippe, donc Roger Hanin, qui est pilote de ligne et leur fils. Mais elle travaille aussi à Trouville, en Seine-et-Marne.
À côté de Deauville.
Voilà, c'est ça. Où elle
c'est
repart
pas en Seine-et-Marne.
Voilà.
Non, c'est en Normandie.
C'est en Normandie.
J'irai revoir pas Normandie. Ah ben, ça me fait penser qu'il...
Oui, dans donc voilà. Et où elle retrouve donc Vincent, Eddie Mitchell, un instit et ses deux enfants. Donc évidemment, sa vie est protégée par ses deux amis, Solange dit Losange, Dominique Lavanant et Cynthia Charlotte de Turckheim.
C'est comment ça déjà le film là ?
Une femme peut en cacher une autre.
Merci.
Mais évidemment, l'inévitable arrive... Alice ne peut évidemment pas choisir entre les deux. Elle préfère fuir et laissant les deux hommes ensemble, les deux hommes de sa vie ensemble, jusqu'à évidemment le grand final que je ne vous raconterai pas.
Merci.
Mais moi, j'avais bien aimé celui-là. Mais ouais.
C'est parce qu'elle est Miu Miu. Bon, non, c'est qui non, la non, première
c'est...
pour toi ?
Oui, qui c'est ta première ?
Je crois que c'est dans un James Bond.
Ah, quand elle sort de l'eau ?
Oui, c'est Ursula Andress.
Ah oui, aussi.
Ouais, c'est clair. Mais moi, je pense que ça peut être ma première aussi, je peux te le dire.
C'est vrai ?
Bah attends, elles sont pures que canon. Bon, ouais, je me demande si c'est celle-là ou celui
c'est Chris
dans,
Jones.
Dans lequel il est au ski, là. Quand ça commence, il est dans un chalet.
Ouais, et puis elle s'appelle. Non, mais elle, c'était juste une figurante, elle a pas joué. C'était juste une espion russe, là.
Bon, bref.
Vitre.
Oui, donc, George Lautner. Alors, évidemment, donc pour... Enfin, on va pas...
Origami, bientôt.
Oui, ceinture noire d'origami. Oui. Donc voilà. Donc George Lautner dans cette émission plus que fouillis, je dois bien l'avouer. Donc voilà. Moi je dirais que effectivement il a eu un succès assez tôt, notamment avec les Barbouzes et surtout les Tontons Flingueurs.
Bah du coup finalement c'était pas vraiment un succès.
Oui non mais je veux dire il a eu, la suite lui a donné raison quoi. Je veux dire après il est devenu vraiment un grand classique. Il a travaillé notamment avec beaucoup de comment ça s'appelle de grands comédiens puisque avec donc Bernard Blier, Mireille Darc,
entre autres.
Oui entre autres. Et puis il y avait les premières d'Alain Delon, de Belmondo, voilà.
Lino Ventura.
Lino Ventura. Je dirais que Georges Lautner fait partie des grands réalisateurs populaires du cinéma français, qu'il a donné pas mal de films, qui sont peut-être plus rentrés dans le domaine, comment ça s'appelle, télévisuel que dans le filmographie. Hein. Je pense qu'on attend plus le passage de ses films à la télévision que d'aller acheter ses DVD.
Alors, Quai d'Orsay, Bertrand Tavernier avec Thierry Lhermitte, Raphaël Personnaz.
Qui ?
Et Raphaël Personnaz.
Marius,
c'est
le Marius.
Ah ouais, on est à chier.
Ah, oh, c'est Raphaël.
Raphaël.
Oh, fou.
Personnage. Non, personnage.
C'est clair.
Arthur Vlaminck, jeune diplômé de l'ENA, est engagé aux affaires étrangères pour rédiger les discours et les fiches du ministre Alexandre Taillard de Worms, qui brasse plus de vent que de dossiers. Pour sa première comédie adaptée de la BD de Christophe Blain et Abel Lanzac, Bertrand Tavernier orchestre un vaudeville malicieux, juvénile et rythmé sur l'exercice du pouvoir. Télérama. Donc, Raphaël Personnaz, déjà, c'est juste du sex appeal à l'état pur.
D'accord.
Mais là, il n'est pas à poil. Hein.
C'est pas grave.
Non, mais c'est la
gueule. Thierry Lhermitte, il va juste avoir un rôle de... génial.
De ouf.
On va dire que c'est une bonne comédie, c'est un grand moment de détente, et c'est sûr, Mister de Villepin.
Oui, tout à fait. Ouais, c'est une belle personne. Ouais. C'est une personnalité.
On peut dire même que c'est une seconde jeunesse. Une seconde... J'ai cassé l'embrayage.
39 ans, du coup, tu perds tes mots.
Oui, mais ça arrivait à une meuf de 22 ans que je connais aussi tout à l'heure pour dire pas très vrai. Donc, seconde jeunesse pour Mister Tavernier, donc avec une comédie politique.
Oui, oui, tout à fait. Merci. Mais vraiment, à mon avis, le film de la semaine.
Ah ouais.
D'accord. Non, non.
Sur les trois qui passent au Pestel et oh.
Non.
Moi, je dirais que oui, c'est
Swan
celui
Dawn
qui
est pas mal.
Non,
aussi,
je pense que. Ouais, ouais.
J'ai pas dit que les autres étaient nuls.
J'ai dit que c'est le film de la semaine.
Non, parce que je pense qu'au niveau du public, ouais, celui-là, il devrait mieux marcher que.
C'est grand public, bien sûr.
C'est grand public, mais il y a quand même Raphaël Personnaz.
D'accord. J'ai son texto si tu veux.
C'est cool, génial, merci.
J'ai son Twitter.
Mon âme par toi guérie, de François Duperron. Donc France 2013, 2h04, attention, les films de plus de 2h, vous savez ce que ça donne.
Donc Grégory Cadebois est solaire, ses secrets, ses douleurs, ses amours. Comme il dit, je voudrais une femme qui ne me quitte pas.
C'est un Freddy, ours solitaire, a reçu de sa mère, décédée, le don de guérir.
Oh, décédée.
Décédée. Elle a reçu de sa mère décédée, merci. Cool.
Dirais-je même. Oui.
Comment guérir? Comment guérir? On dit céder.
Peut-être des Patrick Truel.
Oui. Qui sait. Bon savoir.
Il ne veut pas en entendre parler. Mais le destin va en décider autrement.
Oui, voilà. Donc c'est un film étrange, sensible, poétique, libre.
Avec Daroussin.
Oui, oui. Non, mais il a l'air bien. Alors,
un univers donc très original, énigmatique et attachant.
Oui, Moi, je dirais que ça fait partie de ces films français où le personnage principal est un superbe loser.
Oui, anti-héros.
Voilà, c'est ça.
Mais ça fait du bien de se rendre compte que tout le monde est pareil.
Voilà, c'est ça. Donc, moi, je pense que
c'est sur une France désabusée aussi.
Ouais, moi,
ça correspond bien à la période de maintenant.
Quoi. Voilà, autant Anaël dit Le Quai d'Orsay, ouais. Moi, je dirais que celui-là, ouais.
Ah, mais moi, tous les trois me font envie. Mais le Quai d'Orsay était...
parce qu'il dit plutôt qu'il y a un torse, c'est tout.
Mais...
Un torse, on ne dit pas un torse.
J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Raphaël Personnaz. Et je pense
il a fait un film, deux films, allez.
Mais beaucoup plus que ça. Et je pense que Thierry Lhermitte peut...
Allez, se rhabiller.
Donner... Non, justement. Il peut donner une profondeur
non,
à...
Non, oui, il reste. Ah, d'accord.
Il peut donner une profondeur au jeu de Raphaël Personnaz.
Oui, oui, oui. Bah, c'est-à-dire que... Non, mais c'est-à-dire qu'on se retrouve avec ce personnage grandiloquent, avec un monsieur, tout le monde, qui se retrouve dans...
Parce que lui, il joue le valet, non?
Non, il joue pas
le
valet.
Il joue pas le valet, il joue le jeune diplômé qui va rédiger les discours.
Ouais, voilà. C'est ça, il joue le valet, quoi.
Swan Down, en sortie nationale, attention, donc c'est un film du Royaume-Uni.
Un documentaire.
2013, oui. 1h34, d'Andrew Cotting. Dans son travail filmique et plastique, Andrew Cotting n'a de cesse d'explorer les infinies potentialités de l'image en mouvement. Sa puissance poétique.
Donc ouais, évidemment, le réalisateur Andrew Cotting et son pote Ian Sinclair, qui est écrivain.
N'importe quoi, soit son pote.
Bah si.
Bah si, c'est son pote.
Ouais, d'accord. 230 km en 4 semaines.
Voilà, c'est ça,
jusqu'au stade olympique, bien
voilà,
sûr.
Voilà, de JO de...
De l'estuaire de la...
2012.
Voilà.
Alors qu'est-ce que c'est?
Ce voyage est comme un pied de nez au culte de la performance physique, un éloge du ralenti, une déambulation dans les recoins fluviaux de l'Angleterre.
Voilà, ma vie, mon œuvre, mon pédalo.
Juste encore un petit mot sur... Donc il faut dire aussi qu'il y a une superbe musique de Mr. Jem Finner, qui est souvent l'ami du réalisateur.
Ah, donc c'est son pote lui.
Oui, c'est donc un des musiciens des Pogues,
Le 8 décembre, il y a une séance spéciale. Parce que, attention, ouais, c'est dimanche 8 décembre. Là, ce mois-ci, tous les dimanches, en fait, on vous fait une séance spéciale au Pestel.
Alors, qu'est-ce que c'est ?
Et donc, le dimanche 8 décembre, c'est Swan Down avec le court-métrage Hub Bub into the Baobabs.
Mm-hmm. Yeah.
Baobabs.
Oui, yeah. Baobabs.
Hub into the Baobabs.
Oui, qui est un court-métrage.
Oui, qui est un court-métrage de Andrew Cotting, du coup.
Moi aussi.
En présence de Philippe.
Kiompi,
voilà, ouais. J'hésitais entre Siompi et Kiompi.
Kiompi.
Qui est ingénieur du son et qui travaille régulièrement avec Andrew Cotting.
Oui. Il y avait aussi la doublure lumière du. Jamais il n'a pas pu venir lui.
Et il y a un snacking. Alors je trouve ça hyper classe.
Ouais, c'est
un petit snacking en début de soirée, quoi. Ouais, à partir de 18h30. Un snacking.
18h30.
Et le court-métrage plus le film, du coup, plus le snacking, j'imagine. C'est une séance.
Le même prix, donc.
Wow.
Merci.
Et ouais, c'est cool, ça.
Trop bien. Ouais, je pense que moi...
Et c'est le mois des événements, au Pestel.
Ouais,
hein.
ouais. Moi, j'irai que pour le snack.
Je veux savoir ce que c'est un snacking, quoi.
Ouais, moi aussi. C'est juste pour l'impression de...
La nourriture rapide.
Voilà, c'est ça. Parce que moi,
mais genre du snack hot dog ou du snack steak frites?
Je ne sais pas s'il y aura des saucisses, madame.
Non, il y aura du foie gras. Il y aura du foie gras.
Ah!
Du cygne.
Avec du champagne, parce que moi je veux bien y aller, c'est du foie gras champagne.
Du champagne. Non, mais madame, ici, c'est là.
Du champagne.
C'est la claret to die.
Alors, la semaine prochaine, Anna, quel est le sujet ?
Oui. Alors, nous allons faire une spéciale. Puisque...
Spécial mois de décembre.
Voilà.
Sur Tino Rossi.
Ouais. Ah oui ? Bah oui, Tino Rossi. Donc, une spéciale Noël.
Tout le mois de décembre.
Une trilogie.
Bon, en même temps, il y a pas.
N'oubliez pas que le 11.
Ouais, il y a le Oh, bite.
Allez, passez une bonne semaine. Au revoir.
À la semaine prochaine.
Ouais. Si vous avez des enfants à nous prêter.
Ah oui, si vous avez des enfants à nous prêter, n'hésitez pas.
The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist.
The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
You talking to me?
Say hello to my new friend!
I wanted to learn.
Go ahead. Make my day.
I love the smell of napalm in the morning.
Life is like a box of chocolates.